Scribens O, Scribens A.
Cette émission se propose d'explorer les mystères de la création littéraire et poétique, en commençant tout d'abord par enquêter sur ce qui se trame dans les ateliers d'écriture marseillais.
Les animateurs de La Plume et l'Image ont ouvert leurs portes. C'est Jean-Paul Garagnon qui a joué le jeu de l'interview en tant que pilier de l'association et animateur le mois dernier.
Scribens.
Cette fois-ci, ce sont Nadine Brudelot qui dirige des ateliers d'écriture au sein de La Plume et l'Image, ainsi que Nathalie Jean-Choret, participante, qui vont prendre la parole.
Scribens.
Mais avant cela, il faut revenir sur les propositions d'écriture de l'association. Il existe en effet plusieurs ateliers, dont par exemple les ateliers au long cours, qui accompagnent 5 à 6 personnes engagées dans des chantiers d'écriture, que ce soit roman ou recueil. Existe aussi le récit choral, sur lequel nous reviendrons dans une prochaine émission, ou encore des ateliers de cycle court, tels que le voyage en absurdie.
Scribens.
Thème que nous allons entre autres évoquer avec Nadine et Nathalie.
Bonjour Nadine.
Bonjour Marie.
De La Plume et l'Image. Merci de m'accorder cette interview. Alors, avant toute chose, je me suis demandé comment tu en étais arrivée à animer des ateliers d'écriture. Quelle était ta formation? Est-ce que tu as une formation spécifique? Quel est ton parcours?
D'accord. Alors, avant de faire écrire, j'ai commencé par écrire moi. Donc, il y a tout un parcours d'écriture personnelle. Et ce parcours d'écriture personnelle m'a conduite à passer le DU d'animation d'atelier d'écriture qui se passe à la fac à Marseille l'année dernière. Donc, suite à des discussions avec d'autres animatrices, je me suis lancée dans l'aventure et du coup, j'ai découvert l'autre plaisir qui était celui de faire écrire. Voilà, donc du coup, je suis dans cette double voie, écrire et continuer l'écriture de mon côté, et puis inviter les gens à écrire aussi.
La semaine dernière, tu terminais un cycle sur l'absurde, qui a duré combien de temps, combien de séances?
Alors, un cycle, c'est 5 séances de 2 heures. Voilà, et 5 séances qui sont consécutives sur un mois.
Et quel autre type de cycle avez-vous abordé en atelier? Est-ce que ce sont les mêmes participants?
Alors, il y a des fidèles, on va dire, et puis il y a des gens qui s'inscrivent dans des ateliers parce que le thème les attire, parce qu'ils veulent découvrir un nouvel animateur qu'ils n'ont jamais pratiqué. Il y a vraiment beaucoup de raisons. Mais par exemple, pour revenir au voyage en absurdie, il y a beaucoup de gens qui avaient envie d'avoir une autre expérience de l'écriture, un peu libérée des carcans habituels de la narration. Voilà. Avoir envie de dépoussiérer un peu leur écriture et d'en rire. Donc ceux-là sont venus de façon nouvelle à l'atelier.
Et au préalable, l'avant-dernier cycle, on peut dire quel sujet
Alors l'avant-dernier cycle, pour ma part, c'était un cycle qui s'appelait Des continents, une écriture. Et donc il s'agissait de faire un peu un rapide tour des continents, des grands auteurs majeurs de ces continents, et de voir en quoi leur thème, leur écriture pouvait influencer la nôtre. La nôtre, c'est-à-dire la manière dont on a d'écrire en français. Donc, par exemple, un auteur américain, il a abordé des sujets que nous, en tant qu'auteur français, on ne va pas aborder. Donc, c'est déjà prendre un sujet qui est ultra-national, enfin, qui n'est pas forcément français, et le développer d'une autre façon. Je pense à l'exemple de la nature, par exemple, pour les auteurs américains, ou la présence de la poésie pour les auteurs polynésiens, des choses comme ça.
Et donc là, vous vous appropriez le style poétique ou le style littéraire des Américains ou des Indonésiens pour faire sortir quelque chose. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une approche stylistique, s'approprier le style de tel ou tel auteur ou tel genre pour produire quelque chose de neuf qui n'appartient pas forcément au style propre de chaque participant, ou alors c'est un métissage des deux?
Alors, il y a les deux, effectivement. Il y a dans un premier temps regarder regarder comment les choses se construisent, observer. Donc là, on pourrait parler d'appropriation. Et puis très vite, et puisque cet outil-là semble maîtrisé, je pense par exemple à quelque chose sur l'oralité des textes africains. On avait parlé que les textes africains étaient des textes très très oraux. Donc on était parti de la structure d'un texte africain très oralisé pour après partir sur un texte avec une thématique française, enfin la thématique que les gens voulaient utiliser. Et du coup, on passait de l'appropriation à quelque chose de tout à fait nouveau, enfin de la création, de l'appropriation à la création. Bon, je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas, c'est comme ça que je veux, c'est partir de quelque chose d'assez formel pour avoir l'impression qu'on le maîtrise, et puis après, en faire vraiment quelque chose à sa propre sauce.
Scribence.
Et tu te renouvelles, comment tu travailles pour proposer ces sujets?
Alors pour moi, la dimension importante, c'est le plaisir que je prends d'abord moi, et j'ai du mal à réinvestir des ateliers anciens. Je peux le faire, mais il faut qu'il y ait plusieurs années qui soient passées. Donc ma démarche, c'est vraiment de faire de la création à chaque fois. Je peux partir d'une thématique, mais je vais l'aborder de manière très nouvelle à chaque fois. Parce que c'est très très large en fait. On ne résume rien d'une thématique en 5 ateliers d'écriture. Voilà, en règle générale, je passe du coq à l'âne.
D'accord.
Et j'aime ça parce que du coup, ça me donne des ateliers plus vivants. Il n'y a pas de routine de thématique. Et ça met tout le monde, j'allais presque dire, à un même niveau d'égalité. C'est-à-dire que l'animateur, c'est là, parfois la première fois qu'il anime sur ce sujet. Il est enthousiaste, il est débutant mais enthousiaste. Et puis les autres participants, c'est la même chose. Donc il n'y a pas de sachants et de ceux qui ne savent pas.
Mais la question que je voulais te poser, c'était qu'est-ce qui t'anime et qu'est-ce qui te plaît et qu'est-ce qui t'a plu et qu'est-ce qui te plaît et qu'est-ce qui continuera à
faire. Oui, c'est ça. Mais je crois que là, il y a quelque chose qui traverse un peu mon histoire, c'est la question de la transmission, parce que je suis enseignante. Oui, je suis enseignante. Et cette idée de la transmission, c'est quand même très crucial chez moi. Donc, qu'est-ce qui m'anime? C'est toujours ça. C'est la communication d'un plaisir, d'une envie, d'un émerveillement, de savoir que, d'une part, les participants vont pouvoir produire un texte, et d'autre part, ils vont aussi aller voir d'autres auteurs, d'autres textes pour développer leur connaissance littéraire. Parce que je crois, je suis même sûre de ce que j'avance, que écrire sans lire, c'est juste impossible. Donc pour moi, ce qui m'anime, c'est ça, c'est à la fois les pousser vers l'écriture et aussi leur proposer de la lecture.
Je me demandais justement, quand tu parles de ces participants, quels étaient les profils de ces participants? Est-ce que certains veulent devenir auteurs, poètes, publier leur travail, ou s'agit-il juste d'un exercice presque cérébral, le plaisir d'écrire pour écrire?
Alors, il y a vraiment plusieurs types de profils, mais dans les ateliers sous forme de cycle, qui sont différents des ateliers au long cours dont tu as déjà entendu parler, on a des gens qui ont envie de se faire plaisir pendant 2 heures pour écrire. Donc on a vraiment des gens, oui, c'est à la fois l'exercice intellectuel, le plaisir du partage avec la lecture, etc. Mais il arrive qu'en aparté, il y ait des gens qui demandent une autre lecture de leur texte, en vue d'une réécriture, par exemple. Et là, on imagine peut-être qu'ils vont vouloir après se lancer dans un atelier au long cours ou quelque chose d'un format un petit peu plus long.
Scribence. Voilà.
Quelque part, au sein de tes ateliers, certains font leur premier pas pour ensuite se lancer dans...
Oui, certains font leur premier pas, ou d'autres ont déjà écrit des formats longs, mais ont envie d'une récréation. Et peut-être, il faut rajouter quelque chose. Pour moi, c'est très important, c'est qu'un atelier, même s'il nous permet... Enfin, même si ce n'est pas un atelier au long cours ou un atelier où on mène une nouvelle à terme, c'est une énorme boîte à outils. Et en fait... Tout ce qui est proposé dans un atelier peut servir à un moment donné dans une création longue. On parlait tout à l'heure de l'écriture de l'oralité, même des textes absurdes. Tout ça peut servir dans une narration longue. indirectement.
Je voulais savoir si tu avais le mot n'est pas forcément le meilleur, des mentors, des références, je pense notamment pour la poésie, parce que j'ai entendu par ailleurs une animatrice qui revenait souvent sur André Chédide.
Oui.
Toi-même, peut-être que en matière d'écriture, tu avais des citations, des références.
C'est une question difficile, parce que je peux répondre de manière très personnelle sur ce qui, moi, me meut quand j'écris ou quand je veux écrire. Et je citerai un homme comme Christian Bobin, on parlait de poésie. Mais dans un atelier, évidemment, d'écriture sur l'absurde, je ne vais pas citer Christian Bobin. Il n'y a pas véritablement d'auteur, étant donné qu'il n'y a pas toujours un thème sur lequel je travaille. Puisque je vais travailler sur l'absurde, je vais peut-être utiliser Roland Topor, certains textes d'Umberto Eco. Si je vais travailler sur le cinéma, je vais travailler par exemple, sur les textes de Tanguy Viel ou d'autres auteurs. Ça va véritablement dépendre du thème que j'aborde, puisque mes thèmes sont différents à chaque fois.
Là, tu évoquais le cinéma. Est-ce que oui. Tu peux approfondir, s'il te plaît?
C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Comment l'écriture cinématographique aide l'écriture littéraire. Et l'année dernière, l'été dernier précisément, j'ai animé une résidence d'écriture à ce sujet. En quoi notre écriture peut se faire sans cinéma. Et je vais prolonger le défi cette année avec un autre volet d'atelier d'écriture autour du cinéma.
D'accord. Enfin, c'est pas forcément de l'écriture scénaristique.
Alors cette année, on va s'approcher de ça, de l'écriture scénaristique. L'année dernière, c'était autre chose. L'année dernière, c'était utiliser les forces de l'écriture cinématographique pour enrichir une écriture littéraire. Le cinéma, ça montre et ça fait entendre. Et l'écriture littéraire, parfois, ne fait pas entendre. Il y a peu de textes sur le bruit, par exemple. Il y a des textes de Kafka qui sont merveilleux sur le bruit, mais on lit peu sur le bruit et pourtant, c'est intéressant. Voilà, c'est dans ce sens-là que une écriture peut nourrir l'autre.
Oui, Jean-Paul te rejoignait sur ce point l'autre jour quand on abordait le sujet de l'écriture cinématographique et l'écriture littéraire.
Oui, c'est pas forcément une tendance, mais c'est une autre façon d'aborder un récit. Et du coup, c'est intéressant dans les ateliers d'écriture. Et ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure de la boîte à outils. En fait, tout est outil pour pouvoir écrire.
Scribens.
On en a parlé toujours, mais j'aimerais bien avoir ton avis sur la magie de l'écriture. C'est-à-dire que est-ce qu'il se passe quelque chose dans l'acte d'écrire, c'est-à-dire quel que soit le support, hein, ça peut être un ordinateur, ça peut être le stylo sur le papier. Est-ce que l'esprit devance ce qui est écrit? Ou finalement, est-ce que l'écrit devance ce que le cerveau a imaginé? Comment se passe cette osmose? Est-ce qu'il y a osmose? Est-ce qu'il y a complémentarité?
Il y a d'abord une disposition, je trouve, une disposition à écrire. C'est-à-dire que le fait d'être en atelier, d'être dans une contrainte spatiale, sur un bureau, dans une contrainte temporelle aussi, avec un temps pour écrire, ça nous met dans une disposition pour écrire. On ne peut pas écrire sans cette disposition. Après, qu'est-ce qui précède? Est-ce que c'est la pensée? Est-ce que c'est la première phrase? Ça, c'est assez compliqué. Mais pour ma part, ce que j'aime dans l'écriture, c'est le tâtonnement du début. Donc on est en disposition, on veut écrire quelque chose, et on est dans le noir en réalité. Au départ, on est dans le noir et on tâtonne, et on peut attraper un premier mot, on peut attraper une première phrase, et en tout cas, chez moi, ça va commencer comme ça. C'est la première phrase ou la première image qui va... que je vais saisir et je vais aller quelque part avec. Et comment est-ce que je vais aller quelque part? Évidemment, je vais faire appel à ma raison, inévitablement, mais le moins possible, j'allais dire, chez moi. Le moins possible. Et je m'aperçois que dans les ateliers créatifs, c'est aussi un peu ça. parce que les gens sont dans cette contrainte de temps et ils n'ont pas le temps de réfléchir à faire quelque chose de construit, d'établi, de propre. Et du coup, c'est intéressant de voir le fil qui déroule. Alors, pas jusqu'au bout, parce que généralement, c'est compliqué pour les premiers écrivains d'aller jusqu'au bout. En 20 minutes, on ne va pas jusqu'au bout nécessairement. Mais c'est intéressant de voir ce fil et on sent les tâtonnements. Je pourrais prendre l'exemple d'une participante qui ne rentre jamais directement dans le texte. C'est vraiment sa façon de faire. C'est-à-dire qu'elle a un paragraphe introductif, toujours, qui n'a rien à voir. Mais ça la met dans le bain. Voilà, elle plonge le premier pied dans l'eau froide, et puis le deuxième jusqu'au genou, et quand elle est au genou, après elle y va. Elle est dans le sujet. Et c'est intéressant de voir chacun a vraiment sa pratique.
Donc on en revient finalement au cadre,
oui,
qui génère de la créativité.
Pour moi, ça c'est important, oui. C'est que l'atelier propose une occasion d'écrire.
Avec les contraintes qui sont le temps, qui sont le thème.
Ouais. Et l'espace.
Et l'espace.
Et l'espace, oui.
Écoute, je crois qu'on a fait, on a vu pas mal de points. Ah oui, si, tout de même. Je me demandais ce que tu pensais de cette multitude de masterclass animées par des Erika Manarchini et autres. Ce que tu en pensais, ce qui vous différenciait.
Alors, plus la proposition à écrire est variée, mieux c'est, je trouve. Chacun va y trouver son compte. Donc, je ne suis pas opposée à ce genre de choses. Je trouve qu'il y a sûrement... Je n'y ai pas participé, hein, donc je parle sans savoir, on va dire. Mais il y a sûrement, chez ces auteurs qui donnent des ateliers d'écriture, déjà une pratique de l'écriture et une connaissance du monde de l'édition et de la publication qui est intéressante. Donc ces auteurs-là vont savoir ce qui peut marcher, ce qui fonctionne. Donc on est dans une idée de l'écriture pour que ça marche. Et ça peut être intéressant. Dans le cadre d'un atelier d'écriture plus créatif, bon déjà, il peut y avoir des auteurs, bien sûr, mais c'est aussi des gens qui sont diplômés, qui ont le diplôme universitaire d'animation aux ateliers d'écriture. Et c'est des gens qui ne cherchent pas forcément la fonctionnalité, mais qui cherchent plutôt le déverrouillage de l'écriture. Le côté qui cherche l'audace à écrire davantage. Et avec tout ce qui va avec, l'enthousiasme, la découverte d'autres textes qui ne sont pas des textes d'auteur, parce que généralement, les textes, les auteurs animent leurs propres ateliers, ils se prennent eux-mêmes pour exemple. Mais là, avec un atelier d'écriture, c'est intéressant, il y a vraiment une pluralité des auteurs nationaux, internationaux, du 21e siècle, du 19e, enfin. Voilà, mais je pense que les deux propositions se complètent. Ou, en tout cas, ne doivent pas s'opposer pour moi. Okay. Il y a quelque chose peut-être d'intéressant, c'est de montrer que une association comme La Plume et l'Image, c'est un fonctionnement en équipe. L'idée, c'est que on propose chacun un terrain de jeu différent. Et du coup, c'est intéressant dans cette même association, La Plume et l'Image, d'avoir par exemple des choses qui sont plus techniques, plus narratives, ou bien des projets qui sont un petit peu plus créatifs, ou des choses plus construites comme la nouvelle. Et il ne faut pas oublier qu'en réalité, quand on choisit nos ateliers, on se fait part les uns les autres des sujets qu'on va prendre, pour essayer d'avoir une année qui s'harmonise en fait pour les participants. Ça, c'est important. Je te remercie pour cette interview.
C'est moi qui te remercie infiniment.
Nous avons avec Nadine parlé cinéma, Absurdie. Voici quelques textes produits par Nathalie Jean-Cheret, dont l'interview viendra clore l'émission. Texte lu par Stéphane, comédien, à qui j'ai énoncé les consignes des exercices et parfois donné la réplique.
Nadine Brunelot, cette fois-ci, a proposé comme thématique l'écriture et le cinéma, et notamment écrire la vie d'un regard. Dans une première partie de votre texte, votre attention est entièrement portée vers le visage de l'autre. Dans une seconde partie de votre texte, l'attention est détournée et se porte sur votre monde intérieur.
Tu es posé, à ta place, évidemment, sûr de ton fait, de toi-même. Tes cheveux lisses se placent, eux aussi, avec évidence autour de ton visage. Tu les chiffonnes par moments, avec négligence, certains, bien sûr, qu'ils se replaceront sans dégâts. C'est un geste machinal. Tu n'as aucun doute sur le résultat. Un effet décoiffé et cool. Tu es ciselé invisible, mais tout y est. Des baskets aux chaussettes, jusqu'au sac à dos qui pend négligemment à une de tes épaules. Tu m'obliges à me souvenir de mes premières fautes de goût. La marque apparente. Ton air détendu me rend sauvage et inapproprié. Ton geste inconscient dans tes cheveux souples me rappelle douloureusement que les miens ont été contraints par la chimie pour imiter les tiens et que moi, je ne peux me permettre de bousculer avec ma main l'ordre précaire gagné de haute lutte sur ma tête. Tu es décontracté, absorbé dans ton bouquin. Tu m'obliges à noter que je ne le suis jamais. Toujours à me surveiller pour avoir la bonne attitude, le regard adéquat, l'expression verbale attendue. Tu réponds au téléphone et tu parles avec ta mère. Une conversation d'adulte qui me renvoie à mon impossibilité de répondre à la mienne dans un bus. Parce que ce ne serait pas en français. Parce qu'elle n'entendrait pas. Parce qu'elle insisterait pour un appel en vidéo dont tout le bus profiterait. Tu m'obliges à détourner mes pensées honteuses du type de conversation que nous aurions, ma mère et moi, qu'il faut que je l'emmène faire des courses, que je dois venir les voir plus souvent, que mon père est fatigué, qu'il faut que je demande un parloir pour mon frère, que je dois prendre rendez-vous chez ce spécialiste dont elle ne sait pas le nom mais qui est marqué sur le papier du docteur, qu'il faut appeler l'assistante sociale. Tu es mon miroir aux alouettes, celui qui me fait croire, espérer, que mes efforts de tout instant, mon travail acharné, mes surveillances perpétuelles garantissent mon ascension. Ton regard impassible croise le mien, fiévreux, de bête aux abois.
L'absurde booste la créativité. Les dialogues de sourds. Proposition. Écrire une correspondance absurde. Texte inspirant. Julien Prévieux. Lettre de non-motivation. Choisissez une occasion particulière où vous devez prouver votre enthousiasme et votre motivation à faire quelque chose que vous refusez de faire. Écrivez une lettre adressée à un patron, amis, enfants, voisins, amoureux, et signifiez votre non-motivation. Puis, écrivez une réponse à cette lettre.
celle-ci est plus courte, et atteste que vous n'avez pas été compris. Les points formels. Commencez par « cher »,« chère ». Écrivez à la première personne et au présent.
« Cher, cher, madame, monsieur, la, le, rédactrice, rédacteur, en chef, chef, je vous informe de l'envoi ci-joint de mon article concernant l'impact des ateliers d'écriture sur la vie des habitants du sud-est de la France. Dans un souci d'honnêteté journalistique, je précise que cet article est peu documenté et lorsqu'il l'est, les références en sont hasardeuses, parfois sans fondement, voire inventées. Les transitions sont à revoir, certaines inexistantes, et le sujet est sans aucun intérêt. De plus, illisible. La prose en est poussive et mérite la corbeille. Le titre est à trouver. Espérant avoir attiré votre attention sur la lucidité de mon argumentation, veuillez agréer, madame, monsieur, le, la, rédactrice, rédacteur, en chef, chef, l'expression de mes salutations dévouées.
La réponse.
Chère collaboratrice, cher collaborateur, nous vous remercions pour cet envoi et pour le soin que vous apportez à vos écrits, ainsi qu'à la recherche novatrice qui en émane. Comme prévu par le contrat qui nous lie, votre article sera publié dans le numéro d'avril 2023. En vous remerciant pour votre ponctualité, recevez nos salutations distinguées.
Texte inspirant, les dialogues de Roland Dubillard. Deux personnages dialoguent. Utilisez la contrepétrie, le jeu de mots. Interview de Y, grand écrivain par X, journaliste à Écrire Magazine.
Nos lecteurs se demandent comment écrire un roman intéressant. Quelles seraient vos recettes, s'il en est ?
Question difficile. Il faut du papier vierge, c'est mieux. Un stylo ou un crayon, et ou un ordinateur, une chaise et une table.
Et on trace ?
Non, on prend son temps. La table et la chaise ne sont pas indispensables. Mais écrire debout est fatigant, sauf si l'on est barbu, vieux, exilé sur une île anglo-normande.
Et pour que le roman soit intéressant,
cet aspect est très important. C'est même le plus important. Le secret d'un roman intéressant, c'est qu'il doit présenter un intérêt.
Merci pour le tuyau. Quoi d'autre ?
Je dirais de savoir former des lettres sur le papier, des signes qui puissent être lus, car il est primordial d'être compris du lecteur.
Peut-on écrire couché ? Après tout, de grands auteurs l'ont fait.
Bien sûr, et non des moindres. Dans ce cas, il vaut mieux utiliser un crayon de papier plutôt que de l'encre.
Pourriez-vous éclairer nos lecteurs sur ce point ?
Le concept est ardu et demande une certaine maîtrise de la langue. Il se trouve qu'en position allongée, l'encre ne parvient plus jusqu'à la pointe et l'inspiration s'en trouve alors perturbée. Il ne s'agit pas de faire tâche.
Tous ces précieux conseils ne sont pas à graver dans le marbre, n'est-ce pas?
Non. Seulement sur le papier. Le burin aussi ralentit l'inspiration. Nathalie, également auteure de nouvelles et romans. Bonjour Nathalie.
Bonjour Marie.
Alors nous voilà cet après-midi pour parler de ton appétit d'écrire.
Scribens.
Je me demandais comment tu en étais venue à vouloir participer à un atelier d'écriture et si tu avais eu envie d'écrire bien avant.
Oui. J'écrivais avant de participer à un atelier d'écriture. Quand je me suis sentie un petit peu seule dans ma pratique, j'ai voulu rencontrer du monde et je me suis tournée vers l'association La Plume et l'Image, je dois dire au départ par hasard.
D'accord, et ça fait combien de temps à peu près que...
Que j'écris avec La Plume et l'Image? 2 ans et demi.
2 ans et demi, et avant, c'est quelque chose qui était là depuis très 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 longtemps?
Oui, oui, sans en avoir le temps vraiment, sans me l'autoriser non plus à dégager ce temps pour pouvoir écrire. Je dois dire que dans ma jeunesse, j'ai beaucoup recopié. Je m'en suis aperçue il y a peu de temps.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que les textes que j'aimais et qui m'intéressait, je m'amusais à les recopier, à les travailler. Je faisais l'explication de texte bien avant qu'on me les demande à l'école. À l'école, c'était beaucoup moins drôle, mais toute seule dans ma chambre, oui, j'avais l'impression d'écrire en recopiant les textes des autres et en les décortiquant.
D'accord. Donc finalement, est-ce que tu avais l'impression de participer à la création du texte et à faire fonctionner ton imagination?
Non. Non, je pense pas que... Non, je n'osais pas écrire, je pense.
D'accord.
Aujourd'hui, je l'analyse comme ça. Je pense que je n'osais que recopier le texte d'autres.
Et en passant le pas de La Plume et l'Image, là, il y a eu un déclic et
oui.
Tu t'es dit, je peux le faire.
Oui. Alors, j'écrivais avant. À l'âge adulte, j'écrivais déjà, mais... Sans vraiment de sujet, j'étais le principal sujet de mes écrits et ce qui pouvait m'arriver dans mon quotidien. En fréquentant La Plume et l'Image et en écrivant à partir de propositions d'écriture et selon des thèmes, là j'ai développé mon imaginaire. Parce que forcément, quand on écrit avec propositions, on est stimulé par l'imagination de l'animatrice ou de l'animateur.
D'accord, donc tu avais besoin de propositions extérieures pour stimuler ton propre imaginaire. Donc tu as commencé, quelle a été ton histoire avec La Plume et l'Image?
J'ai commencé par un cycle, et à La Plume et l'Image il y a des cycles sur un thème, ce sont 5 séances. C'était des séances en visio parce que je crois qu'on était encore en période de Covid. Et c'était un thème sur, le thème de l'étrange. démultiplier en 5 séances, 5 sur 5 lundis.
Scribens.
Et on a écrit sur différents types de littérature de l'étrange.
Ce qui a motivé ton envie d'écrire une nouvelle, deux nouvelles, un roman, c'est l'envie de publier derrière, ou c'est vraiment c'est une question de défi, de challenge, ou les deux?
Alors, non, la publication, non. J'écris pas dans cette optique-là. Le challenge avec moi-même, oui. Et le plaisir que ça me procure d'écrire, de monter d'inventer des mondes, des petits univers. Ouais.
Donc il y a l'invention de l'univers et l'attraction pour le style,
oui.
Travailler son style, trouver sa patte,
oui.
Ou alors même, puisque j'ai assisté avec toi à la session sur l'absurde, aller dans le sens, ou en tout cas à s'imprégner d'une patte, d'un style qui appartient à un genre, c'est ce qui t'amuse aussi.
Oui, c'est amusant parce que en travaillant d'autres styles, on libère la créativité, on aborde des territoires auxquels on ne penserait pas seul, et surtout comme on a un modèle. Que ce soit pour le dialogue de sourds, que ce soit pour le nonsense, par exemple là dans ce cycle Voyage en absurdie, toutes les littératures de l'absurde, on a écrit sur des modèles. Et l'admiration, c'est un bon moteur pour écrire aussi. Est-ce que j'arriverai à faire presque aussi bien, ou est-ce que je pourrais m'approcher de ce style-là? Oui, en écrivant, je trouve que c'est porteur.
D'accord. Donc il y a eu l'absurde, là c'était la toute fin du cycle auquel j'ai eu la chance de participer. Ce que j'ai pu observer dans cet atelier, c'était vraiment la bienveillance, la gaieté aussi. Alors, je ne sais pas si c'était généré aussi par le genre abordé, c'est-à-dire l'absurde. C'est le cas pour tout type d'atelier, de session. Je crois que oui, la bienveillance fait partie des règles.
Oui, oui, oui. C'est rappelé par les animateurs et animatrices au départ de chaque atelier. Les gens qui écrivent à la plume et l'image, les participants, se connaissent ou pas. Mais de toute façon, la règle est la bienveillance, le retour constructif, et bien sûr, un thème comme l'absurde ou un thème comme le pastiche.
Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le pastiche?
Oui, alors le pastiche, on s'était amusé à écrire, par exemple, comme Proust, ou à la façon de Proust. Donc d'abord, on étudiait la phrase, celle qui dure 10 lignes, et d'autres auteurs. On a écrit beaucoup de textes dans ce cycle, et ensuite on a écrit le journal de ce texte à la façon de Gide, avec les faux monnayeurs et le journal ensuite.
D'accord, donc voilà. C'est un gros travail.
C'est un gros travail, oui.
Là-haut, c'est pas uniquement...
Avec un personnage de base, qui était le bibliothécaire d'Arcimboldo, le tableau.
Ah donc, oui.
On a aussi écrit à la façon d'Italo Calvino. J'ai parlé de Proust, on a écrit à la façon du roman gothique. Et à chaque fois, des écritures différentes. Et chacun a choisi le thème de son journal. Et moi, j'ai choisi, par exemple, c'était l'histoire d'une autrice à qui on avait commandé un roman sur le bibliothécaire d'Arcimboldo.
Tu traverses beaucoup de styles, beaucoup de pas différents qui ne sont pas nécessairement le tien. Est-ce que, malgré tout, tu arrives à faire ressortir de tout ça la substantifique moelle qui t'appartient à toi, plus spécifiquement, quand tu écris ta nouvelle, ton roman?
Oui. Alors, traverser et travailler tous ces styles, ce que ça apporte à moi en tout cas, c'est de libérer ma façon d'écrire. Mon écriture est beaucoup plus en liberté. Puisque je pars du principe que de toute façon, je n'égalerai pas les gens que les auteurs qu'on a pastichés en atelier. Il y a certains certaines de leurs caractéristiques qui me plaisent et que j'aimerais bien reproduire, mais c'est comme une mise à distance qui me permet d'écrire, j'allais dire d'être moi-même, non, d'écrire moi-même. Ça libère.
D'accord. Et est-ce que là tu es en train d'écrire un roman actuellement?
Oui.
Est-ce que tu peux en toucher deux mots, histoire de nous donner envie de découvrir davantage et de te motiver à continuer?
Alors, c'est un roman qui est terminé. Le premier jet est écrit. Maintenant, il est en phase de réécriture. Pour dire les choses prosaïquement, c'est l'histoire d'une femme mariée, une mère de famille même, qui est en burn-out. Situation très commune. Ce qui est moins commun, c'est la façon dont elle va se sortir de ce burn-out. Et elle va, sans participer à des ateliers d'écriture, elle va s'en libérer par la lecture. Et elle va vivre les aventures qu'elle lit. Voilà.
Scribens.
Qu'est-ce qu'ils vont en faire ensuite ?
Alors, les nouvelles que j'ai écrites déjà, je les offre à mon entourage, par exemple pour Noël, pour les anniversaires, mais j'envisage pas de publication pour l'instant.
D'accord, c'est un frein.
Penser à la publication, pour moi, c'est un frein à mon écriture.
Mais encore, c'est intéressant ça, de creuser un peu.
Je crois que ce que j'aime le plus, c'est écrire et parler de littérature et parler d'écriture. Mais je ne m'imagine pas devoir présenter ce texte, devoir le défendre, j'imagine pas le qu'il soit attaqué. Et j'apparaîtrai, je pense, derrière le texte. J'ai pas tellement envie qu'on me voie.
Oui, tu préfères l'anonymat.
Voilà, je préfère l'anonymat. Je veux bien écrire, je veux bien faire lire, mais je préfère l'anonymat. Voilà, c'est ce qui me plaît le plus. Et enfin, ce qui me plaît le plus, c'est surtout d'écrire.
Je l'entends. J'entends. Merci encore.
Merci Marie.
Si nous devions retenir de cette émission un seul mot, ce serait le mot plaisir. Plaisir d'écrire, plaisir de faire écrire. Merci à Nadine, prêtresse de la transmission, à Nathalie, la grande conteuse de cette émission. Merci à Stéphane, qui a joué avec bonheur le rôle de lecteur, ainsi qu'à Radio Galère, bien sûr. Comme dit tout au début de l'émission, Scribens A, Scribens O explorera la prochaine fois le récit choral. Tout un programme.